se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Renan Mahé et Maxime Anna à la technique, c'est Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza qui nous assiste et je n'oublie pas ma réalisatrice Valérie Ayestaraï. Allez, une petite humeur. Vous avez dit 4 heures top chrono, 4 heures de temps de débat mardi prochain sur la laïcité pour expédier un siècle de tradition républicaine. Mais, on peut faire mieux dans notre speedy société, dans le toujours plus, le flux tendu des esprits. On peut imaginer, sans perte de temps pour la productivité, 3 heures pour débattre de l'écologie, pour ou contre, 2 heures pour ou contre le nucléaire, 1 heure pour ou contre la suite de la dévastation de la nature, 1 demi-heure pour ou contre une vie digne, harmonieuse pour le plus grand nombre, partageuse avec le sud et sans flinguer nos milieux. Vous voyez, on peut avoir des idées. Non, poisson d'avril, tout va bien. Alors, un moratoire sur l'EPR de Flamanville, vous en rêviez, faut peut-être un petit peu l'oublier. Et oui, que voulez-vous? Pas le temps d'arrêter le chantier, de tirer en toute objectivité les leçons de Fukushima. Et puis chez nous, il n'y a pas de tsunami, donc circulez. Tchernobyl, 25 ans déjà, mais il manque encore 1,5 milliard d'euros pour enterrer l'affaire. La chape de plomb, ce n'est pas sur le réacteur détruit qu'on l'a posé. Rappelez-vous le professeur Pellerin qui nous chantait sa berceuse le soir à la télévision. Mangez tranquille, le nuage radioactif s'est arrêté à nos frontières. Alors, bilan de l'opération, les amateurs d'épinards et de champignons se sont farcis la thyroïde de rayons gamma et ont écopé de cancer. Aujourd'hui, le professeur Pellerin est accusé de ne pas nous avoir raconté toute la vérité. Droit dans ses bottes en plomb, il réclame un non-lieu et a toutes les chances de l'obtenir. Ça pourrait s'appeler de l'auto-blanchiment et ça fonctionne assez bien dans les autres sphères du lobby nucléaire. Alors pour les semaines et les mois qui viennent, on demandera peut-être à la CRIRA de nous préparer l'addition de ces petites doses de radioactivité qui nous tombent tous les jours sur la tête. Poisson d'avril, oui, ou plutôt lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. L'œil scotché sur sa montre. La croissance n'attend pas ma petite dame, toujours plus. On vend d'abord, on pose des questions après. Médicaments, OGM, nanotechnologie, pesticides, centrale nucléaire, à peu près le même combat. La croissance, s'il le faut, on la repeint en vert. Et oui, ça s'appelle le développement durable et c'est à l'affiche donc cette semaine. Voilà. Mais foin quand même de la morosité ambiante. Malgré le siphonnage des matières premières et des esprits, ne vous en faites pas, la révolution a commencé. La preuve. La semaine dernière, l'émission de télé-réalité dégradante de TF1, oui je sais c'est un pléonasme, a fait un flop auprès des ménagères de moins de 50 ans. Et la vente des compteurs Gégère explose. Et de quoi se plaint-on? L'espoir est là. Et ben voilà. Mais oui, c'est tout ça. C'est aussi ça l'écologie. Et puis c'est aussi le livre de Fabrice Nicolino, qui n'y va pas de main morte. Il sort gentiment son, bon, pas dire son bazooka, mais enfin bon, l'écologie, on a l'impression que c'est fini. Fabrice Nicolino, qui a tué l'écologie? L'écologie en accusation. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça fait, comme on dit, pas mal de buzz. On va y participer. Mais, on souhaitait quand même qu'il y ait un petit peu de monde aussi en face. Bonjour Fabrice Nicolino.
Bonjour Denis.
Alors vous connaissez cette émission parce que vous intervenez aussi dans la ronde des journalistes de temps à autre. Donc on vous connaît. Donc là, c'est un livre, on va dire, pamphlet, coup de gueule, enquête. Je tiens à dire tout de suite, je l'avais dit tout à l'heure, que vous êtes au départ, vous, effectivement, écologiste depuis très très longtemps. Je veux dire, de quelle famille, parce que je vous sens un petit peu quand même anarchiste, mais sur quoi vous pourriez vous raccrocher, vous, comme écologiste?
Écoutez, c'est vrai que je suis écologiste depuis très longtemps. De quelle famille je me sens le plus proche? J'avoue que je ne sais pas quoi répondre. En tout cas, je ne me situe pas du tout sur le terrain, disons, politique habituel, c'est-à-dire les élections, les partis politiques traditionnels, parce que je pense que la crise écologique planétaire pose des questions parfaitement inédites à l'homme, aux humains que nous sommes tous, des questions inédites en face d'une histoire humaine qui a quand même 2 millions d'années. Je crois que c'est inédit. Et donc, me situer, non, je suis très sceptique sur les formes anciennes qui ont eu leur mérite, qui ont eu leur importance. Et je crois qu'en face d'une situation nouvelle et très radicalement inquiétante, bah, il faut inventer des formes nouvelles. Il n'y a rien de très spectaculaire à dire ça, me semble-t-il.
Alors, vous aviez déjà travaillé sur le domaine de la viande avec Bidoche, l'industrie qui menace le monde, les pesticides, révélations sur un scandale français. Donc là, qui a tué l'écologie? En fait, vous en prenez aux ONG aujourd'hui qui sont, à vous lire, complètement institutionnalisées. Vous dites que depuis 40 ans, on n'a pas avancé. Grenelle de l'environnement a des résultats, on va dire, bien en dessous de la ligne de la flottaison. Que nos écologistes ont pignon sur rue, qui sont devenus des écolos de salon. Bon, on n'en jetait plus. Dans le meilleur des cas, c'est des naïfs. Dans le pire des cas, c'est des corrompus parce qu'ils sont financés quand même peu ou prou par le monde industriel. Voilà, je reprends mon souffle. J'allais presque dire après ça, mais ça on y viendra. Non, alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire
D'abord, si vous voulez, je le répète, je suis écologiste, donc c'est assez simple. Hein. Quelle était la situation il y a 40 ans quand ce mouvement écologiste, les associations comme Greenpeace ou France Nature Environnement, plus tard la Fondation Hulot, un peu avant le WWF, que se passait-il finalement il y a un peu plus de 40 ans? On croyait, on avait la naïveté de penser, c'était faux d'ailleurs, mais moi je l'ai pensé, je le dis sincèrement, on avait la naïveté de penser que la situation pouvait se régler à coups de rustine, qu'on pouvait finalement sauver la planète en achetant des terrains par-ci par-là, une vasière, un marais, défendre une ligne de côte, de sauver une rivière d'un programme de barrage. Bon, on avait cette naïveté-là qui était sincère. Simplement, les temps ont changé radicalement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une crise écologique qui nous paraissait localisée, qui n'était pas, mais qui nous paraissait localisée, à une crise planétaire épouvantable où finalement les principaux écosystèmes de la planète sont menacés d'effondrement. Or, ces écosystèmes sont connectés les uns aux autres. Vous savez très bien, Denis, que la crise des océans, qui est absolument, de nature biblique, frappe également, a des influences, une influence directe sur la crise du climat, qui elle-même a une influence directe sur l'état des sols arables, donc de
l'alimentation
humaine.
C'est un jeu de dominos en permanence.
Exactement. Cool, oui. Et on est en face d'une situation qui s'est considérablement aggravée en 40 ans. Donc moi, je suis parti du constat, d'un constat très simple. Est-ce que ces associations qui ne cessent de nous répéter qu'il faut sauver la planète car elle est en danger et en danger immédiat, est-ce que ces associations sont de taille, sont de nature à nous aider à faire face à la crise écologique? Et la réponse de mon livre, c'est clairement non.
Bon, alors nous allons décortiquer un petit peu tout cela avec vous. Donc vous l'avez compris, le débat va être un petit peu chaud et tout à fait intéressant. Et il nous faudra un peu de musique pour adoucir les mœurs peut-être. Mais oui, absolument. C'est bien, ça. Fool's Garden, oui, Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder.
wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Voilà, je vous dis, Muriel Pérez, ça va nous faire très plaisir ce disque-là. Et oui, ça fait plaisir à tout le monde. Le livre, évidemment, fait peut-être un peu moins plaisir aux associations écologistes. Qui a tué l'écologie, de Fabrice Nicolino. Vous êtes là, Jean-Marie Pahelt?
Oui.
Bon, c'est bien, vous écoutez. Là, vous êtes
oui,
assis.
Absolument. Vous bonjour à tout le monde.
Et voilà, vous êtes dans
bonjour,
votre...
Jean-Marie.
Et oui, vous êtes dans votre jardin. Vous êtes
oui, au soleil.
Vous êtes au soleil, c'est très,
très
donc,
beau.
Voilà, il fait très beau en Lorraine, il faut le dire et le répéter. Arnaud Gossement est dans notre studio. Tout va bien, Arnaud?
Très bien pour l'instant.
Oui, mais tout à fait. Donc, je le rappelle, avocat environnementaliste, ancien porte-parole de France Nature Environnement. C'est très rigolo parce que dans le bouquin, j'ai découvert que vous étiez blond aux yeux bleus. Ce qui est
vous ne le saviez pas.
Je ne le savais pas, mais c'était écrit par Fabrice.
Au moins, ça ne pose pas problème.
Bon, c'est peut-être pas l'information la plus importante. Alors, quand même, quelques mots. On va pas tout décortiquer, mais quand vous parlez entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, de la bande des quatre, WWF, Greenpeace, France Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot, on va pas faire tout l'historique. Bon, vous rappelez que le WWF. Donc au départ, bien sûr, anglo-saxon avait été créé par des aristocrates qui étaient des chasseurs. Et comme ils ne voyaient qu'il n'y avait plus rien à chasser, ils se sont dit, il faut protéger cette merveilleuse nature. Bien, alors ça, c'était l'objet de départ. Heureusement, tout ceci a quand même pas mal évolué. Vous pointez assez bien le fait qu'il y a 1001 riches donateurs. Je ne parle pas des millions de donateurs, des petits donateurs que l'on peut être les uns les autres. Mais là, il y a une espèce un peu d'omerta, qu'on ne sait pas très bien qui sont ces gros donateurs. Mais je voudrais plutôt vous amener sur le fait que là, c'est assez récent, que le WWF, vous le dites, est quand même mouillé dans une affaire assez internationale autour du soja. Racontez-nous.
Mmh. Bon, c'est assez simple. Hein. Ça concerne différents produits, dont le soja, en effet. Vous savez que le soja, c'est une sorte d'arme de destruction massive des écosystèmes en Amérique latine. Il y a des pays qui sont très malmenés par l'irruption du soja. Il n'y avait pratiquement pas de soja en Amérique latine il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a entre 45 et 50 millions d'hectares plantés en soja, au détriment de la forêt tropicale, au détriment de milieux comme le Cerrado au Brésil, qui est une savane extrêmement riche sur le plan de la biodiversité. Donc, arme de destruction massive des écosystèmes, mais aussi des populations locales, des communautés paysannes, des communautés indiennes. Donc, c'est pas une plante ordinaire. C'est une plante qui, à mon avis, est véritablement l'ennemi, l'un des ennemis de notre avenir commun.
Comment se fait-il que WWF, maintenant, se retrouve à une table, on va dire, je ne sais pas si c'est de négociation, mais en tout cas pour cautionner.
Bon, en fait, il s'agit de c'est des tables rondes. Oui, c'est tout à fait officiel, c'est certain ce que je suis en train de dire. Le WWF international siège, escalité, sert de caution soi-disant écologique dans des tables rondes sur le soja, mais aussi sur les biocarburants, mais aussi sur l'huile de palme. Il s'agit de quoi? En l'occurrence, pour le soja, on est autour d'une table avec des industriels, dont Monsanto, il faut le dire, dont Monsanto. Et le WWF travaille avec ces industriels, ces transnationales, pour accorder un label soi-disant durable, soi-disant soutenable, à une production qui est véritablement insoutenable, inqualifiable sur le plan moral et sur le plan écologique. Donc le WWF a noué des liens qui en fait existent depuis le début. Je vous trouve un tout petit peu optimiste quant à l'histoire du WWF, mais je n'y reviens pas. En tout cas, c'est des liens qui vraiment existent entre la grande industrie transnationale et la direction du WWF depuis les origines, depuis 1961, et qui se manifestent aujourd'hui par une véritable consanguinité avec l'univers des transnationales et avec leurs objectifs qui sont totalement contraires aux objectifs des écologistes, puisque, à mon avis, une entreprise comme Monsanto et bien d'autres, leur but sur cette terre, c'est d'avancer à tout prix, quel que soit le coût social, humain, écologique. Oui. Donc c'est très grave à mon avis, très très grave. Et je constate que le WWF refuse de s'expliquer là-dessus.
Greenpeace, né en 71, donc là vraiment mouvement de combat, vous dites en fait que les militants ont été transformés en donateurs. Et d'ailleurs, oui. À la tête aujourd'hui, donc un directeur, Pascal Husting, qui est un ancien financier du Luxembourg, donc qui faisait de l'optimisation fiscale pour les entreprises, qui maintenant donc, est à la tête. Et ceci, on va dire ce professionnel, rationalise, enfin, c'est-à-dire qu'on prend peut-être des méthodes de marketing aujourd'hui, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
Oui, c'est une sorte de mimétisme. En fait, Greenpeace ressemble à une entreprise. D'ailleurs, Greenpeace est une entreprise. Pascal Lustig, que je connais bien, j'estime par ailleurs, mais c'est un financier venu de l'univers de l'industrie et de la finance. En effet, il a conseillé des entreprises transnationales pour des opérations d'optimisation fiscale offshore. C'est lui-même qui le dit. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, il a gagné la partie. Il a été recruté pour cela par un cabinet de recrutement. Il est à la tête de Greenpeace en France. Il obtient des résultats, mais des résultats financiers. C'est-à-dire, il a en effet augmenté le nombre de donateurs, qui ne sont évidemment pas du tout des militants, qui payent au fond Greenpeace pour monter des opérations de communication et presque de publicité à la télévision avec des images fortes. Mais le pendant de cela, c'est que Greenpeace est devenue une institution, n'est plus du tout ce que les gens croient, à mon avis. C'est une association qui, effectivement, s'est rapprochée considérablement de l'univers industriel, de l'univers avec les exigences qui sont celles de l'industrie. Et c'est vrai, Greenpeace a complètement changé de visage. C'est un fait.
Alors, la fondation Nicolas Hulot, là, évidemment, je veux dire que l'on picore hein, dans votre livre, parce que vous détaillez cela sur de nombreuses pages sur chacun des ONG. La fondation Nicolas Hulot, avant qu'il nous dise qu'il va peut-être se présenter, oui. Donc la présidentielle d'ici quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez là, bon, au-delà du financement connaît.
D'abord, un mot sur Nicolas Hulot lui-même que je connais. J'estime cet homme et j'ai pris sa défense à de nombreuses reprises. Enfin, j'ai écrit depuis 15 ans de nombreux articles, y compris dans des journaux qui étaient a priori très hostiles à sa personne. Je pense par exemple à l'hebdomadaire Politis. Mm-hmm. Donc si vous voulez, je ne suis pas suspect d'anti-hulotisme primaire. Je ne suis pas dans cette logique-là.
D'autant qu'il y a eu une véritable évolution depuis les années 90.
Mais je l'ai signalé constamment et j'étais un des rares à le faire, en tout cas dans les milieux où j'étais. Donc j'estime cet homme. Simplement, c'est sûr que Nicolas Hulot, bon, on va dire pour être gentil qu'il est d'une naïveté confondante. Il a quand même eu des dizaines et des dizaines de face-à-face, c'est lui-même qui me l'a dit, et ce n'est pas un secret, avec l'ancien président Jacques Chirac, sans que rien ne bouge dans ce pays, parce que Jacques Chirac, en fait, c'est quand même, et avant toute chose, l'homme de l'agriculture industrielle en France. Donc il a eu cette naïveté-là.
La maison brûle et nous regardons ailleurs. Et vous dites, en fait, la planète se marre plutôt.
Oui, la planète se marre, c'est vrai. Mais si vous voulez, Nicolas Hulot, il sait, c'est un homme qui croit, finalement, qui est un boy scout dans l'âme, et qui croit que si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, ça serait magnifique. Mais tous les gars du monde ne veulent pas se donner la main, et du coup, c'est pas du tout magnifique.
Il a un peu évolué quand même. Hein. Il a un peu
évolué. Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est sur le nucléaire. Là, il veut se présenter à l'élection présidentielle. Bon, c'est son droit. Moi, c'est sûr que je ne voterai pas pour lui, mais c'est tout à fait son droit qu'il se présente. En tout cas, sur la question du nucléaire, il est obligé, parce qu'il veut se présenter, il est obligé de faire une déclaration forte sur la question du nucléaire, sur fond de catastrophe au Japon. Très bien. Mais c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il y a comme une mission d'information de l'Assemblée nationale qui l'a épinglé il y a quelques semaines après, à peine, et qui s'étonnait, à mon avis à juste titre, de ce qu'elle appelait la mensuétude de la Fondation Nicolas Hulot par rapport au nucléaire, en rapprochant cette mensuétude de la présence au conseil d'administration de la Fondation Hulot de l'entreprise EDF. Par ailleurs, le conseiller d'énergie de Nicolas Hulot, Jean-Marc Jancovici, que je respecte, oui, c'est un militant nucléaire, c'est un pro-nucléaire fervent, il l'a dit, répété, il a été consultant d'Areva et d'EDF, donc c'est vraiment un
et par militant. Ailleurs très très bon sur les problèmes de climat
excellent.
Et d'énergie, sur les constats qui sont...
Il est absolument excellent, mais sur le nucléaire, c'est un militant du nucléaire, et donc Nicolas Hulot s'est appuyé sur cette expertise pendant de longues années. Voilà où on en est, et c'est aussi la raison pour laquelle, au Grenelle de l'environnement dont on va parler sans doute tout à l'heure, eh bien les associations écologistes officielles ont accepté, ce qui me paraît proprement inouï et véritablement scandaleux, ont accepté que la question du nucléaire soit évacuée, parce qu'à ce moment de l'histoire, à la fin de l'été 2007, au moment où le Grenelle environnement déferlé sur les ondes, eh bien Nicolas Sarkozy vendait une centrale nucléaire à Monsieur Kadhafi. Oui. Souvenons-nous un petit peu de cet événement-là.
Et Madame Areva, c'est-à-dire Madame Lauvergeon, on l'avait rappelé l'autre jour avec Pierre Radan, donc a dit non, attention, c'est pas parce que le président le dit que nous on le fera, parce que là il y avait danger.
On peut croire à toutes les fables. Il se trouve que dans le domaine du nucléaire, on nous a menés en bateau constamment depuis les origines, c'est-à-dire depuis au moins 40 ans en arrière.
Vous avez encore un obus de 115 à Savette pour effet 9 France Nature. Environnement. Alors là, je le rappelle, parce qu'attendez, après, on va y aller. Hein. J'ai Arnaud Gosseman, j'ai Jean-Marie Pelt. Là, on pose un peu les valises, tranquillement. Donc, qui regroupe quand même 3000 associations avec énormément de gens sur le terrain, vraiment régionalement, territorialement, des bénévoles qui n'arrêtent pas, qui donnent leur temps, etc. Qu'est-ce que vous reprochez? Alors, bon, c'est un financement de fonds publics à 70%. Bon, ça s'est inscrit depuis très longtemps. Et vous vous dites, en fait, le problème, c'est que ça fait un peu fil à la patte. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Enfin, qu'est-ce que vous reprochez à France Nature Environnement
maintenant? Déjà, enlever le un peu fil à la patte, car c'est un totalement gros, un énorme fil à la patte. Forcément, quand on n'a pas d'indépendance financière, on n'a pas d'indépendance du tout. C'est la première chose. Deuxième chose, je suis membre moi-même de France Nature Environnement. Je suis membre depuis 1987 de Bretagne Vivante, qui est une des grandes associations régionales de France Nature Environnement. J'écris depuis des années bénévolement dans le bulletin de cette association et je suis très content de le faire. Donc je ne suis pas extérieur, je suis dedans. Et deuxième chose, FNE a vécu, comme les autres associations, des phénomènes de notabilisation, d'institutionnalisation, d'accommodement avec le système industriel et étatique. Et il est sûr qu'aujourd'hui, France Nature Environnement est absolument incapable, parce que c'est devenu une espèce de... La direction de France Nature Environnement, j'en suis désolé, mais c'est devenu une espèce de caste, petite caste bureaucratique. Je considère que France Nature Environnement ne peut plus nous aider à faire face à la situation actuelle. Je vais prendre quelques exemples très simples. France Nature Environnement a de nombreux partenariats avec de grands industriels, dont une transnationale des pesticides Compo. J'ai dénoncé, moi, publiquement, dans des articles de presse, ce partenariat que je trouve scandaleux.
Mais dans Compo, il y a compost, non ?
Comment ? Ah oui.
Non, c'est pas ça.
Non, il y a
pas
surtout Compo.
Pas d'accord. Il y a surtout Compo.
Il y a surtout Compo pour composition, à mon avis. Composition chimique, oui. Si vous voulez, à mon avis. Bon, par ailleurs, FNE, joue un rôle extrêmement, révoltant à mes yeux dans des labels, dans la construction de labels permettant aux industriels du bois dans le monde entier de vendre du bois dans
la
des
certification
conditions
PEFC.
C'est un authentique
pan-européenne, on va dire.
Absolument, mais, oui. Ça, mais c'est en fait c'est un label qui est désormais mondialisé et ça permet à des industriels de vendre du bois qui est coupé dans des conditions abjectes, je pèse le sens de mes paroles, abjectes, dans des pays, par exemple en Tasmanie, mais aussi dans l'Asie du Sud-Est. Et d'une façon générale, FNE a accepté des postes au Conseil économique, social et environnemental. Il y a beaucoup de gens dans ces associations qui ont reçu la Légion d'honneur, qui accepte le jeu, qui est un jeu classique, mais qui est quand même très très inquiétant dans la situation où nous sommes, un jeu de gratification.
Faites pas un peu des amalgames de temps en temps quand même. Hein,
non. Parlez-moi des amalgames que je fais, bien volontiers, ouais. Je vous répondrai, il n'y a aucun problème.
Alors, bon, là on voit bien effectivement, on a posé un peu le décor avec le WWF, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, FNE, tout ceci ne marche plus, donc on est complètement désespéré là, à l'écoute.
Non,
attendez, on va y venir aussi sur... Mais Arnaud Gossemand, donc je le rappelle, avocat environnementaliste, qui connaît un peu le sujet depuis des années, vous avez été porte-parole de France Nature Environnement. Vous connaissez bien sûr à la fois les forces et les faiblesses quand même de France Nature Environnement. Je veux dire que tout n'est pas rose, on n'est pas on-off, blanc ou noir. Avec ça, qu'est-ce que vous avez un petit peu envie de dire donc, à la lecture de cet ouvrage ?
Je dirais que d'une manière générale, quand j'ai lu l'ouvrage de Fabrice Nicolino, je me suis dit, c'est dommage parce qu'il se trompe de cible. Ils se trompent complètement de cible. Je ne pense pas que les écologistes soient les pires ennemis de la planète. Je pense qu'il y a d'autres entreprises et d'autres forces politiques qui sont beaucoup plus dangereuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a parfois des questions qui sont tout à fait intéressantes. Je pense par exemple au financement des associations. C'est un vrai sujet, c'est un sujet très complexe. C'est vrai qu'il y a de lourds problèmes en matière de financement des associations. Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire de caricaturer ensuite, de prendre un exemple. On peut parler de Compo, par exemple, j'ai bien connu le problème, pour ensuite dire, regardez, ils sont tous pourris à l'intérieur de l'association. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est derrière, c'est que je n'aime pas l'expression « la bande des quatre ». Effectivement, ça renvoie à un passé assez peu glorieux. Et puis surtout, je pense qu'on a tort de dire « les écologistes », « les associations ». En réalité, quand on rentre dans le monde associatif, moi, ce qui m'a le plus frappé quand je suis rentré à FNE, c'est l'extraordinaire diversité de ce mouvement, les engueulades, les tensions, les querelles. Pendant le Grenelle, je peux vous dire que Greenpeace, FNE, VVF, etc., ça tapait lourd dessus les uns les autres, même si ensuite, effectivement, on était capable de se parler normalement. Je veux dire par là qu'il y a de nombreuses tendances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Fabrice Nicolino et moi représentons deux conceptions, je pense, radicalement différentes de l'écologie. Et malgré tout, ça reste de l'écologie. Dans mon monde à moi, il y a une place pour ces écologistes-là. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est dans un pays démocratique, dès lors qu'on accepte les règles démocratiques, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est quand même ça la question de base. Et c'est un peu ce que je reprocherais au livre de Nicolino. C'est-à-dire que quand on lit la conclusion, on apprend qu'il faut faire des choses originales, il faut faire différemment. Mais concrètement, il faut faire quoi ? Personnellement, lors du Grenelle de l'environnement, parce que c'est effectivement le sujet, lorsque cette...
Qui ressort en miettes du bouquin, soyez, il est quand même ressorti en miettes du Parlement aussi.
Ouais, non mais alors, sur le Grenelle de l'environnement, puisqu'on arrive à ce sujet-là, je peux répondre sur Compo, les financements, etc., il n'y a absolument aucun souci là-dessus, mais très sincèrement, sur le Grenelle de l'environnement, qui est quand même la base, effectivement, je pense, hein, de votre livre, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il s'est passé qu'on était à une période en 2007, où vous avez un candidat qui n'avait pas franchement la faveur de la plupart des associatifs à l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, Il est élu au suffrage universel, on n'y peut rien, c'est comme ça, effectivement. Il y a un certain nombre de choses qui sont rebutantes dans son programme et dans son action par la suite, mais il est élu au suffrage universel, il met en place son gouvernement. Et à ce moment-là, il nous dit, bon, bah, effectivement, on va faire un truc qui s'appelle le Grenelle de l'environnement. Contrairement à ce que j'ai entendu, ça ne vient pas des associations. FNE n'a jamais proposé un Grenelle de l'environnement, je ne savais même pas ce que c'était.
Ça vient des associations, pardonnez-moi.
Ça vient d'une association qui s'appelle Écologie sans frontières.
Franck Laval.
Effectivement, moi, Écologie sans frontières, j'apprends ce que c'est, effectivement, lors du Grenelle de l'environnement, je suis désolé. Je ne connaissais pas cette association-là. Je connaissais FNE, Greenpeace, etc. Et donc, on participe au Grenelle de l'environnement. Est-ce que le Grenelle de l'environnement a été enchanteur ? Non. Effectivement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il n'y a pas eu de consensus. Il fallait accepter la méthode du consensus. On a recherché ça. Moi, je dis simplement, est-ce qu'on reproche à la CGT d'aller participer au dialogue social, d'aller à Matignon dans les moments de conflit, etc. ? Non. Est-ce qu'on doit reprocher aux associations d'utiliser un levier parmi d'autres ? Ce n'est qu'un levier parmi d'autres, le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire le dialogue environnemental, pour rechercher effectivement à faire avancer certaines choses. Je crois qu'il ne faut ni caricaturer, ni dire que c'était magique ou dire que c'est une horreur, le Grenelle de l'environnement. Je ne pense pas, contrairement à vous, que c'était un complot pour servir l'écologie sur un plateau à Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, la preuve, ça ne lui a pas beaucoup servi électoralement. L'écologie n'a pas franchement été pour lui.
Je n'ai jamais parlé de complot. Je vous retiens. Je vous arrête une seconde.
Je pense qu'il y a un peu de la théorie du complot aussi quand même dans votre livre. On imagine que les ONG se sont regroupées, ont voulu participer, se sont assis sur des vérités comme le nucléaire.
Je n'ai pas écrit ça.
Je
ne
vous ai pas coupé. Je finis.
Je n'ai pas écrit ça.
Je finis juste sur le Grenelle d'environnement parce que c'est ça qui est important. Au final, est-ce qu'il y a des ratages dans le Grenelle de l'environnement ? Oui, très nombreux. Il y en a certains que vous n'avez même pas cités. Par exemple, sur le risque industriel, au-delà du nucléaire, sur tout ce qui est installation classée, déchets, produits chimiques, on n'a pas avancé. Sur la santé environnement, je considère qu'on n'a pas avancé. Sur un certain nombre d'autres sujets, je considère au contraire qu'on a pu avancer, qu'on a pu aller dans le bon sens. Je pense par exemple à la performance énergétique des bâtiments. Ça ne représente qu'1% du parc social, je suis d'accord. Mais encore une fois, avant, il n'y avait rien. J'entends Fabrice Nicolino qui rit, mais je suis sûr que tout à l'heure, il va nous dire comment il faut faire, parce qu'il est toujours plus facile de critiquer que de proposer des choses. Juste il y a d'autres sujets que j'aurais pu vous citer, Denis, effectivement, qui démontrent effectivement que le Grenelle n'a pas été totalement inutile. En tout cas, s'il n'a pas produit les effets escomptés, ce n'était pas un complot, encore une fois, en faveur de la Sarkozy. C'est vraiment, je tiens à le dire aujourd'hui.
Bon, mais écoutez, je vous trouve sincèrement gonflé, Arnaud Gossement, parce que vous avez porté au nu...
Arrêtez vos attaques personnelles.
Je vous réponds. Je vous trouve gonflé, car vous avez porté au nu le Grenelle de l'environnement à de très nombreuses reprises et pendant plusieurs années. Vous, personnellement, FNE, par ailleurs, et les autres associations également. Donc, en ce moment, évidemment, c'est très difficile de défendre le Grenelle, vu que c'est un fiasco total qui n'a strictement rien donné. Et j'ajoute une chose. Vous avez accepté de participer à cette pantomime à la française en squeezant des questions aussi fondamentales que le nucléaire, que l'eau, que les biocarburants, que les nanotechnologies, un degré moins les téléphones portables. Il y a beaucoup de sujets que vous avez accepté de ne pas traiter au moment du Grenelle de l'environnement. À l'arrivée, aucun résultat tangible, on vient de le voir. Vous n'avez rien dit de tangible au moment même où les associations écologistes délivrent un message qui est anxiogène, très anxiogène, c'est-à-dire la planète est en feu, la planète est en danger, nous n'avons plus que 3 ans pour sauver la planète, etc. etc. Tout ça, c'est le corps vraiment du discours des associations écologistes, donc qui diffusent de la peur dans l'opinion sans lui donner aucun moyen réagir à la situation.
Vous diffusez un peu de la peur aussi de temps en temps.
Mais moi j'appelle à un changement de cadre. Comme on dit savamment, un changement de paradigme. Mais moi, je ne me contente pas d'en parler, j'essaye d'y parvenir.
Alors, nous avons en ligne Jean-Marie Pell qui a pris plein de notes. Cher Jean-Marie, vous êtes toujours là, Jean-Marie Pell ?
Oui, oui.
Bon, voilà, oui, bah, c'est très bien, prenez ça avec le sourire, parce que de toute façon, voilà, il nous faut du recul aussi. Et donc, le recul lorrain, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Marie ? En ayant lu donc, cet ouvrage, s'étant endormi avec hier soir, parce que je vous ai appelé à 23h30 et vous étiez encore dessus. Donc, voilà, je vous en prie, Jean-Marie Pell.
Alors, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre qui peut quand même fragiliser l'écologie en France qui se porte déjà très mal ? Alors, elle se porte très mal parce qu'il y a eu une sorte de sommet à Copenhague où on ne parlait pratiquement plus que d'écologie. Et puis, pendant toute l'année dernière, on en parlait de moins en moins pour finalement n'en parler presque plus du tout, de sorte que dans de nombreuses interventions, je m'interrogeais pour savoir si on parlerait de l'écologie à la présidentielle. Ensuite, il y a eu la catastrophe du Japon. Et tout d'un coup, on a parlé du nucléaire, dont je vous signale que l'écologie parlait très peu. je me suis trouvé très souvent, très seul, avec évidemment sortir du nucléaire.
Le réseau sortir du nucléaire, oui. 600 ou 700 associations.
Parler de ça, et moi, alors très clairement, je n'ai jamais accepté que le nucléaire ait été exclu du Grenelle. C'est un domaine majeur qui est au centre de toute la problématique énergétique et qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main. Alors peut-être qu'un des aspects positifs de la sortie de ce livre, c'est qu'il y aura un sursaut. On va s'agiter.
Ça secoue le cocotier, si j'ose dire.
Pardon ?
Ça secoue le cocotier que nous n'avons pas sous nos latitudes.
Oui, tout à fait. Alors si ça secoue le cocotier, ça redonnera peut-être du punch et de l'énergie à l'écologie. En tout cas, ça serait un bien qui sortirait d'un mal. Ça serait ce qu'on appelle... un moindre mal.
Jean-Marie, il y a un point aussi sur lequel vous avez assez bien fonctionné, je crois que c'est dans le chapitre de France Nature Environnement, mais ça peut être ailleurs, c'est sur le fait de participer à des commissions. Voilà. Ah. Alors ça, c'est, bon, pour Fabrice Nicolino, c'est en gros une marionnette... D'accord, bon, on vous prend pour des marionnettes, je vais y arriver une autre fois. Et donc un alibi, en fait, donc, de participer à des différentes commissions. Et il y a beaucoup de gens qui le font, et qui le font très très sincèrement en plus.
Ils le font très sincèrement et il y a une sorte d'honorabilité à être convié à une commission menée par l'État. Alors je me suis débarrassé de cette sensation il y a à peu près 25 ans, quand j'avais calculé un jour en venant par le train de Paris que j'étais allé 4 fois à Paris pour pouvoir finalement avoir un projet de recherche en écologie urbaine évalué aujourd'hui à un peu moins de 1000 euros. Bon, j'ai trouvé que vraiment, vraiment, pour avoir des petites subventions marginales, il fallait y passer tout son temps. Alors j'ai arrêté et j'ai pris beaucoup de distance à l'égard du monde des commissions et du monde des réunions, ce qui va me donner du temps pour faire tout ce que nous faisons maintenant. Alors, et puis il y a un autre danger. C'est le danger de l'institutionnalisation, dont je me suis méfié comme de la peste. Je n'ai jamais voulu que l'Institut européen d'écologie soit une grande association qui aurait dû signer des contrats de tous les côtés pour faire des études d'impact, etc., qui aurait eu beaucoup de salariés, donc une charge très lourde qui nous aurait petit à petit inféodé au milieu économique complètement et nous aurait empêché d'avoir la liberté de parole totale que nous avons aujourd'hui. Donc se méfier de l'institutionnalisation, ça permet d'avoir un langage libre. Et je crois que nous avons défendu cette idée-là. Alors un mot encore, j'étais assez choqué par la descente en flammes du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, on a dit, est peut-être un naïf ou un gentil soldat, peut-être que c'est vrai. Peut-être que je suis pareil, mais il a voulu s'entourer de gens compétents parce qu'il n'a pas, au départ, comme nous l'avons nous, une formation écologique. Et ça n'est pas choquant. Et dans les membres du comité de veille écologique, il y a des gens qui sont tout à fait estimables.
Donc, ce que dit d'ailleurs Fabrice Nicolino,
dans son ouvrage. Oui, tout à fait. Donc c'est un biais par lequel il ne faut pas l'attaquer. Et puis par-dessus le marché... S'il est le candidat de l'écologie, c'est pas la peine de l'affaiblir dans le monde de l'écologie. Voilà une raison pour laquelle je pense que la cible sur la Fondation Nicolas Hulot est particulièrement malvenue. Enfin, un dernier mot, c'est que j'ai quand même été effaré de ce qu'on vient d'évoquer à propos, disons, du couplage beaucoup trop étroit à mon goût de WWF avec les multinationales dont il a été question tout à l'heure. Il y a des lignes jaunes qu'on ne franchit jamais. Je me souviens être revenu d'une multinationale il y a 2 ans. Bon, il m'avait approché, comme on dit entre guillemets. J'ai participé à une réunion. Je suis revenu, j'ai dit à mes collaborateurs, ce dossier n'aboutira que dans notre enfer. C'est des habitements à moi où on met les dossiers qui ne doivent pas aboutir.
Ça vous appelez ça votre enfer, vous.
On ne doit jamais... privilégier la ressource financière que l'on peut escompter d'une collaboration si celle-ci n'est plus un compromis, mais est devenue une compromission. Ça, nous ne l'avons jamais fait.
Bon, merci à vous Jean-Marie, vous reviendrez dans quelques instants. Ce que je vous propose, parce qu'après donc, Arnaud Gossement et donc, Fabrice Nicolino vont poursuivre ce merveilleux débat, rien de mieux à faire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le titre de la chanson d'Hubert Mouillet. Mais n'interprétez rien avec rien de mieux à faire, non.
De tous les jeux de hasard, de tous les coups du sort, on dit que si l'on s'en sort, cela nous rend plus fort. Mais je dois dire que celui que je préfère, c'est l'amour. Rien de mieux à faire, rien de mieux à faire.
Oui, encore un petit coup là, deuxième. Voilà, ça a été terminé. C'était donc Hubert Mouillet. Vous êtes bien sûr France Inter. C'est au deux, mon amour. Tout va bien. On respire un grand coup. Et donc, nous avons donc le livre de Fabrice Nicolino qui a tué l'écologie. On en parle, hein, de votre bouquin, dites-donc. Là, vous étiez passé chez Mermet aussi, etc. Enfin, voilà. Mais là, effectivement, il y a un petit peu de monde en face parce qu'on comprend bien que derrière tout ça, il y a quand même des militants qui sont là, qui nous écoutent. On va revenir aussi après. Après, j'ai presque dire ce. Je n'ai pas employé le mot de croisade, hein, parce que pas bon en ce moment, pas bon du tout le mot de croisade, on a vu ce que ça donnait. Bon, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi qui suis militant, je suis en train d'écouter, je lui dis, mais attendez, là, il y a un côté un peu tous pourris, etc. Alors nous sommes dans la semaine quand même du développement durable, il faut bien comprendre que c'est, parce que version MEDEF, ça peut être croissance durable, donc développement soutenable. C'est qu'est-ce qui est soutenable pour la planète aujourd'hui? C'est une notion qui date de 1987, et lorsque l'on parle des fameuses générations futures, qu'est-ce que l'on doit leur laisser? Il ne faut même pas penser donc, aux gamins qui vont naître dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, bien sûr. Non, mais c'est déjà nos mômes qui ont ans, 10, 15, 20 ans aujourd'hui. C'est vraiment là parce que l'échelle de temps s'était extrêmement raccourcie. Alors quelques mots, parce que c'est vraiment aussi au cœur du livre de Fabrice Nicolino. Arnaud Gosmans qui accepte complètement la critique, hein, je ne vous roulais pas forcément pour les associations, loin de là, hein, ce n'est pas ce rôle-là que vous endossez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous allez dire sur cette notion de développement durable aujourd'hui ?
Alors, si vous me permettez, juste avant de parler du développement soutenable, mais on est dans le sujet entre économie et écologie qui me paraît absolument fondamental, juste deux points sur ce qu'a dit tout à l'heure Fabrice Nicolino. Le premier, c'est le financement des associations. Très bref, il n'y a pas de financement idéal. Franchement, lorsque j'étais à FNE, j'ai vraiment bossé sur cette question du financement. D'abord, un, vous faites financer par des particuliers, uniquement des particuliers. Vous êtes c'est le système Greenpeace. Vous êtes indépendant des entreprises, vous êtes indépendant de l'État. Le problème, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas totalement indépendant de la communication, puisque généralement, les gens donnent de l'argent au moment où ils voient, vu à la télé, un certain nombre de sujets. Donc, ce n'est pas un système idéal. Deuxièmement, les particuliers donnent pour certaines choses, pas pour d'autres. Lorsque vous participez, par exemple, à une commission, ce n'est pas très sexy, tout le monde s'en fout, pour être très clair. Lorsque je vais siéger au CODERS de la préfecture de Seine-et-Marne, objectivement, il n'y a personne qui va me donner de l'argent pour ça. Vous faites financer par des entreprises, par exemple WWF. Alors, ah oui, mais alors la vous êtes avec Hidalgo, les associations quoi. Et les entreprises, c'est malsain, etc. Ce dialogue-là, ça ne va pas du tout parce que vous n'êtes pas indépendant. Vous faites financer par l'État, sachant que à FNE, par exemple, pourquoi est-ce que c'est l'État qui finance ce centre de mission ? Parce que ni les entreprises, ni les donateurs ne veulent financer ces missions-là. Il faut savoir qu'FNE participe à plus d'un millier de commissions. Quand je dis FNE, ce n'est pas FNE, c'est en fait les 80 fédérations qui adhèrent à FNE, qui vont dans un certain nombre de commissions. On les avait recensées, il y en avait plus d'un millier. Donc effectivement, lorsque on veut participer à ce genre de choses, objectivement, les bénévoles que vous envoyez ne touchent pas d'argent, il n'y a pas de jeton de présence, hein, comme dans, on n'est pas chez Veolia, mais en même temps, il faut bien payer leur train et parfois leur hôtel. Et ça c'est un budget phénoménal. Je me rappelle quand on était à FNE, on avait estimé un petit peu à 300 000 euros le budget annuel, rien que pour les billets de train, les hôtels, machin, etc. Et je peux vous dire que les hôtels, c'est le couvent des bonnes sœurs, hein. C'est pas l'hôtel 4 étoiles. C'est jamais à voir avec ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'a jamais trouvé, je pense que la bonne formule, c'est de fixer différents financements. Et j'aimerais bien aussi peut-être qu'on crée un système peut-être de fonds mutualisés qui soit indépendant de l'État, qui puisse être abondé par ceux qui le souhaitent, mais qu'on déconnecte effectivement le financement entre celui qui le reçoit et celui qui le donne. Il y a quelque chose à creuser là-dessus, mais le financement aujourd'hui des associations, je ne le défends pas, mais en même temps, je dis sincèrement, on n'a pas trouvé la bonne solution. Est-ce qu'il y a des pressions parfois de la part de personnes qui donnent de l'argent ? Oui, bien sûr, c'est évident qu'il peut y avoir des pressions. Pourquoi une entreprise donne de l'argent à une association ? Elle peut aussi avoir envie, effectivement, de temps en temps qu'on porte ses biscuits. Je signale quand même que pour le cas Compo, par exemple, on avait attaqué devant le Conseil d'État, ce que vous ne dites pas dans le livre, le Cruiser. On a été une association qui avait attaqué devant le Conseil d'État en justice le Cruiser.
Je n'aime pas forcément les abeilles. Hein,
le Cruiser. Et Compo, effectivement, le partenariat, c'est pas fait parce qu'effectivement, ils sont venus en disant on va vous vendre un produit anti-limaces bio qui permet de protéger les hérissons. Donc je dis sincèrement, on s'est fait rouler dans la farine. J'accepte volontiers la critique.
C'est ni la première ni la dernière fois.
Dire de FNE qu'il est pro-pesticide alors qu'objectivement vous avez des militants qui se battent sur le terrain comme Oui Rivière de Bretagne, etc.
Mais attendez. Moi, je connais très bien ce que vous dites, je le connais très bien. Oui Rivière de Bretagne, je vais en bise sur cette affaire avec France Nature Environnement.
Oui, je sais bien, mais je ne dis pas que tout est rose. Encore une fois, j'accepte la critique. Est-ce que j'ai fait des conneries ? Oui, contrairement à vous, je l'accepte effectivement d'avoir faire des conneries, d'avoir écrit des conneries. La deuxième chose, effectivement, qui est importante dans l'histoire, c'est le nucléaire. On dit qu'on a accepté. Non, c'est complètement faux. De quel film vous parlez, là, effectivement ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 21 mai, Sarko nous dit, moi, je veux bien parler de nucléaire, mais je ne veux pas remettre en cause l'autorisation de faire l'EPR de Flamanville, donc le réacteur qui est sur le site de Flamanville. C'est pas question. Et on lui a répondu, parfait, il y a un communiqué de presse, on va saisir la justice. Et donc nous nous sommes retrouvés dans le tribunal administratif de Caen, j'étais l'un des avocats, effectivement, il y en avait d'autres, il y avait Sortir Nucléaire, il y avait Greenpeace et d'autres, on a attaqué le permis de construire, on ne s'est pas contenté de mots.
Non,
on est allé en justice sur le PR de Flamanville.
C'est
un fait, donc nous n'avons pas accepté. Et lors du Grenelle, est-ce qu'on a parlé du nucléaire ? Oui, on a beaucoup parlé du nucléaire, c'est-à-dire ça revenait tout le temps. Et le problème, c'est qu'il y a certains sujets par contre dont nous n'avons pas parlé. Je pense par exemple aux installations classées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors après, est-ce qu'à la sortie du Grenelle, vous dites ça servit à rien, etc. Je suis désolé, il y a quand même eu certaines choses qu'on n'aurait jamais arraché si on n'avait pas eu le Grenelle. Par exemple, le moratoire sur les OGM en 810, demandé à José Bové, lui-même l'a reconnu qu'effectivement on avait fait avancer le sujet à cette époque-là. Par exemple, la mine d'or à Cambior, un combat de 5 ans, effectivement on obtient l'annulation du permis de recherche à cette époque-là.
C'est en Guyane pour Cambior.
Sur le développement durable. C'est quand même au cœur du sujet.
Je
fais partie des écologistes qui pensent, c'est même mon métier.
Je peux dire un petit mot en réponse à ce que vous disiez sur le
développement durable.
Un tout petit mot rapide. Moi, je pense que vous moquez un petit peu des auditeurs quand vous prétendez que crois vous pas êtes battu ça. Sur le nucléaire.
C'est un faux. Attends, laissez-moi le recours a été déposé.
Laissez-moi vous le dire. Vous avez accepté, ainsi que les autres d'ailleurs,
mais pas du tout.
Que le nucléaire ne fasse pas partie du Grenelle. Vous avez obtenu satisfaction, parfait. Mais la vérité, c'est que vous avez permis à Nicolas Sarkozy de continuer ses affaires de VRP du nucléaire. Mais oui, bien sûr. Et vous avez donné une caution à ce gouvernement qui en avait bien besoin à l'époque. Maintenant, vous avez du mal à le reconnaître parce qu'évidemment, le résultat du Grenelle est un fiasco monumental.
Donc là, on ne vous mettra pas complètement d'accord, on a compris. Alors, développement soutenable, on y va.
Oui, c'est formidable cette histoire. Parce qu'en fait, l'expression développement durable, elle est entrée dans le vocabulaire commun, finalement. Vous aviez raison tout à l'heure,
marché,
en 1987. Et c'est une expression à tiroir qui est utilisée, c'est quand même extraordinaire, aussi bien par les grands industriels, les transnationales, les États, les gouvernements, les partis politiques, les syndicats, les associations écologistes, les journalistes, tout le monde utilise cette expression. Donc il y a un premier problème d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi, dans mon livre, j'ai fait une enquête approfondie et sérieuse. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Une chose simple. L'homme qui a mis au point, qui a inventé et surtout qui a diffusé et popularisé cette expression de développement durable, c'est un Canadien, Maurice Strong. C'est pas un diable, c'est un homme d'affaires canadien, un milliardaire qui a été patron de Petro-Canada. Donc c'est un homme des transnationales. Mais parallèlement à cette activité d'homme des transnationales, c'est un homme qui a été un élément clé de la stratégie des Nations Unies par rapport au sommet de la Terre. Maurice Strong a été le premier secrétaire du programme des Nations Unies pour l'environnement. À ce titre, il a organisé le premier sommet de la Terre de Stockholm en 1972. Il a aussi organisé le sommet de la Terre de Rio en 1992. Et il s'est adjoint les services d'un Suisse allemand qui s'appelait Stefan Schmidheiny, dont la fortune vient d'Eternit. Une entreprise qui
Eternit, c'est l'amiante.
C'est l'amiante. En ce moment, il y a un procès, figurez-vous, à Turin, un procès qu'on appelle historique en Italie, parce qu'il y a 2000 ouvriers italiens des usines Eternit qui sont morts de l'amiante. Et Stefan Schmidheiny est le principal mis
bon,
en cause.
Donc c'est lui qui nous met en mouvement ce mot de développement soutenable.
Et Schmidheiny refuse de se présenter au tribunal, parce qu'entre-temps, il a changé de discours et il est donc devenu une aide précieuse de Maurice Strong. Donc ces gens, Maurice Strong a fait partie de la commission Brundtland en 1987. Il est l'homme vraiment du développement durable. Il a aussi siégé au WWF États-Unis. Il est aussi très ami avec Greenpeace. Et c'est en fait un homme qui vend l'idée du développement durable. Pour moi, selon moi, c'est une ruse de guerre qui consiste à continuer à faire des affaires, à faire du développement, un développement qui va durer, donc une sorte de développement éternel, au risque évidemment de continuer à détruire les écosystèmes principaux de la planète.
Jean-Marie Pelt, est-ce qu'il y a tout à jeter dans cette notion de développement soutenable ?
Si ça veut dire que désormais il faut tout faire autrement, il y a du bon dans le concept. Ce qui m'a mis aussi mal à l'aise à la lecture du livre de Nicolino, c'est de découvrir l'importance de ces multinationales toutes puissantes dans la manière dont elles sont fournies à l'écologie et à ces grandes associations des personnes issues de leur sein. Je trouve que c'est pas très sain, ça. Et que tout de même, il serait logique que l'écologie soit plutôt entre les mains de gens qui ont fait leurs preuves. Or là, Nicolino est très cruel parce qu'il met en scène un grand nombre de personnages qui occupent des fonctions très importantes dans les grandes associations écologiques et qui n'ont jamais fait de l'écologie. Enfin, y compris les ministres d'ailleurs. J'ai trouvé ça assez gênant, je dois dire assez gênant. Bon, peut-être que parce que j'ai fait de l'écologie depuis 1964, j'ai du recul pour le dire, mais c'est embêtant que ceux qui connaissent l'écologie ne soient que les petits soldats de ceux qui managent le monde et qui sont les multinationales.
Alors, je vous épargne évidemment les portraits de Jean-Louis Borloo, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Chantal Joanneau. Vous les retrouverez dans cet ouvrage. Développement soutenable, qu'est-ce que vous voulez dire, Arnaud Gossemont, s'il vous plaît ?
Non, mais encore une fois, c'est toujours la même critique que je vous adresse, c'est qu'il ne faut pas personnaliser ce débat-là. Ce n'est pas parce que Maurice Strong, effectivement, a travaillé pour des compagnies pétrolières que ceux qui utilisent.
Il n'a pas travaillé, il a dirigé.
J'essaye de finir.
Non, il a dirigé.
Oui, et même, peu importe, même s'il avait été. Ce n'est pas parce que Sarkozy dit qu'il pleut que je suis obligé de dire qu'il fait beau, comme dirait Daniel Cohn-Bendit. Je peux effectivement utiliser une expression. D'ailleurs, vous utilisez l'expression bande des quatre, qui est quand même est assez funèbre. Quand même,
pourquoi,
est,
pourquoi
parce que, un, elle a été employée par Jean-Marie Le Pen, et deux, parce qu'elle a été à l'origine de la révolution culturelle.
Il n'y a pas millions de morts. Il n'y a pas de pénis chez Nicolino.
Non, et bien justement, c'est bien ce que je dis. Il ne faut pas personnaliser. Ce n'est pas parce que vous utilisez une expression, je veux juste finir. Et juste, si vous permettez, vous êtes un grand démocrate, permettez-moi. Sur le développement soutenable, derrière ça, le problème, ce n'est pas Maurice Strong, ça n'a aucun intérêt. Le problème, c'est de savoir comment on articule écologie et économie. C'est ça le vrai problème. Je fais partie des écologistes qui pensent qu'effectivement qu'il faut dialoguer avec les entreprises, qu'il faut monter des partenariats avec eux. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord, mais le sujet, il est là. Le débat, il est là. Comment on travaille avec
l'écologie
les entreprises?
L'écologie plus radicale, j'imagine. Comment vous la voyez, cette écologie?
Mais on est obligé de travailler avec le monde économique.
On peut parler, par exemple, de la mobilisation exceptionnelle en ce moment contre les gaz de schiste. Je le sais parce que je suis au cœur de cette mobilisation depuis l'origine, depuis l'été dernier.
Comment, vous n'aimez pas les gaz de schiste?
Non, je n'aime pas les gaz de schiste. Et je trouve que ça, c'est une mobilisation tout à fait extraordinaire qui peut-être portera ses fruits, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une façon d'intervenir dans la discussion publique. Vous voyez comment, par exemple, c'est quand même extraordinaire de penser que le FNE n'est pas intervenu en tant que tel sur les gaz de schiste, en tout cas contre les gaz de schiste, alors qu'on apprend que le chef du groupe parlementaire UMP à l'Assemblée, Christian Jacob, dépose un projet de loi pour l'abrogation des permis d'exploration. Ce qui veut dire que le groupe UMP de l'Assemblée nationale est très
Bordeaux,
en avance. Très en avance, les permis d'exploration ont été signés par Jean-Louis Borloo, dont vous n'êtes pas si éloigné que ça, Arnaud Gossemont. C'est votre responsabilité, je n'en discute pas, c'est votre liberté totale. Mais néanmoins, c'est frappant de voir que FNE est en retard sur le groupe UMP de l'Assemblée nationale. Si j'étais FNE, si je représentais FNE, je me poserais de sérieuses questions.
Alors, très très vite, Claude-Marie Vadreau, je sais que vous allez faire court. Voilà. Donc, Claude-Marie Vadreau, je rappelle, vous êtes journaliste aussi, vous faites des enquêtes depuis très très longtemps, vous avez travaillé au Journal du Dimanche, Politis, etc. Juste un tout petit mot, peut-être, effectivement, ou une question, très calmement, à Fabrice Nicolino, je vous en prie.
Ça serait une remarque et une question. Bon, j'ai trois points communs avec Fabrice Nicolino. Je n'ai pas la Légion d'honneur, je suis écolo depuis longtemps et je n'utilise jamais le mot développement durable, que je considère comme une escroquerie qui est utilisée par le monde industriel et politique. Okay. Alors, le bouquin, moi, ce que je voudrais dire à Nicolino, c'est qu'il me fait penser à Claude Allègre, dont la plus grande jouissance est d'apparaître tout seul contre tout le monde. Alors, si l'écologie radicale, c'est le dénigrement de tout le monde, si l'écologie radicale, c'est décourager les gens de nous rejoindre, puisque je vous considère comme membre de la famille, ou de rejoindre les associations, alors je ne suis pas un écologiste radical. Je suis juste quelqu'un qui souhaite, comme Denis Chessou, par exemple, que les choses changent, même lentement. Alors, à quoi il sert votre livre ? À désespérer l'écologie ?
Donc, je vais vous répondre.
À désespérer les militants qu'au fond, finalement, vous insultez ? Je me pose des questions après avoir fini de lire votre livre que je trouve, oui, comme une insulte pour les militants qui travaillent au quotidien, à FNE ou ailleurs.
Merci Claude-Marie Vadreau. Alors, c'est une question que beaucoup de gens se posent. J'ai reçu beaucoup de mails, au risque de décourager donc les petites mains des courants écologistes que vous dénoncez. On sait que les choses ne sont pas forcément binaires. Comment on peut faire progresser tout ça sans... Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent être mal.
Bon, je vais répondre très calmement, mais comme un mot, parce que c'est pas possible de me laisser insulter par Claude-Marie Vadreau.
Oui, vous allez...
Bon, il faut quand même que les auditeurs sachent que Claude-Marie Vadreau m'exècre ce qui est bien son droit. Et quant à me comparer à Claude Allègre, c'est une insulte, mais elle n'est pas méritée.
Bon,
je n'ai pas insulté les militants. Je suis moi-même militant de ce mouvement et j'appartiens à France
Indépendante,
comme je l'ai dit. Oui. Donc ça, c'est pour répondre à Claude-Marie Vadreau. Donc j'appartiens complètement à ce mouvement. Les solutions sont très difficiles, mais c'est parce que la situation est très difficile. De deux choses l'une. Où on pense que la situation est vraiment grave. Et c'est ce que je crois. C'est-à-dire que les écosystèmes principaux de la planète sont menacés d'effondrement.
Non, on est d'accord.
Et en ce cas...
Simplement, c'est sur la désespérance des gens qui peuvent nous écouter.
Je pense qu'il faut se retrousser les manches. Je pense qu'il faut accepter de changer de programme, accepter de changer de structure. C'est le processus même de la vie. C'est-à-dire, si des structures humaines comme le WWF ou Greenpeace, Fondation Hulot ou France Nature Environnement ne sont plus utiles pour le combat nécessaire pour la défense de la planète, il faut tout simplement en changer. C'est un programme que je trouve enthousiasmant, notamment pour la jeunesse, que j'appelle vraiment à un sursaut. Je crois que c'est un combat que... Il y a les gens qui veulent se battre pour sauver les équilibres de la planète. Il y a ceux qui acceptent de continuer à parler jusqu'à la fin des temps humains. Moi, je suis partisan de me battre démocratiquement, de façon non violente, mais en tout cas avec beaucoup, beaucoup de détermination.
Donc, parce que c'est vrai qu'à la lecture de ce livre, on va se dire mais que les forces hostiles à l'environnement, que ce soit la FNSEA, le MEDEF, Monsanto, ils peuvent se délecter. Hein,
non,
peuvent...
je ne crois pas parce que je
y a
les
pas un
je
côté
les attaque...
sort de ce corps, Laurence Parizeau. Non,
non, je crois pas parce que je les attaque directement et je les juge dans ce livre que comme les principaux responsables de la destruction des écosystèmes. Donc, il est clair que c'est un appel au sursaut, à l'énergie, à l'enthousiasme et à l'espoir.
Un petit mot de réconciliation, cher Arnaud Gosselin.
Je ne suis pas sûr que ça ait de la réconciliation. Parce qu'effectivement, ce que je trouve désespérant dans ce livre, c'est que vous ne proposez rigoureusement rien. C'est supprimer les associations, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, vous y militez
les dépasser,
vous-même.
Arnaud Gosselin, les
je
dépasser.
Je peux juste finir. Je pense que personnaliser le débat, pratiquer l'insulte comme vous le faites, dire tout va mal, ne rien proposer à la place, ça ne va pas faire avancer le débat sur l'écologie.
Alors, ce que je vous propose,
absolument pas.
Voilà.
Il faut agir. Mais agir, c'est pas uniquement s'en prendre aux autres.
Oui, mais vous ne faites rien.
Voilà. Alors, ça s'appelle donc qui a tué l'écologie.
Vous
c'est
non plus,
aux éditions
vous faites
Les Liens qui libèrent. Je vous remercie beaucoup. Merci donc à vous tous. Bah oui, non, ça, on pourrait faire 3 heures. Merci à Renan Maé, à Maximana, à Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestara, je reprends mon souffle. Voilà, Denis Chessou, Anne Gouzon qui nourrit les sites aussi de CO de mon amour. Ne l'oublions pas. La semaine prochaine, bah, tenez, vous avez dédié ce livre à Pierre Rabhi. Nous avons entendu Jean-Marie Pelt. On va les retrouver tous les deux.
Oui.
Je veux dire, tous les deux dans un jardin dans le Morbihan. Et comme ils étaient tous les deux ensemble et qu'on était dans une conférence, eh bien, j'ai fait ce reportage que vous entendrez tous les deux.
Pierre Rabhi est un ami et je l'embrasse.
Voilà, merci beaucoup. Un peu de pub, ouais, je crois que c'est ça.